mon titre un peu changé. J'avais au départ Archivier de présent, architecture de mémoire et quotidien. Et le titre initial, en fait, était lié à cette recherche que je mène au NT2, mais aussi avec, non pas tout seul, mais l'ensemble du NT2, mais aussi avec Ariane Savoie sur les bases de données et les pratiques narratives numériques. Et dans un premier temps, je pensais m'intéresser d'abord et avant tout ce qu'on avait fait ensemble sur les moyens mis en œuvre pour se servir des bases de données et des fins esthétiques. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant sur ça, que mon intérêt s'est déplacé pour aller du côté, non pas tant des contenus, mais des poétiques à l'œuvre, avec ou non les bases de données. Donc, vous allez voir un peu ce que ça va donner. C'est pas vraiment une réflexion très, très poussée. Je n'ai pas de texte écrit pour l'instant. Le peu de texte qui est écrit, vous allez le voir apparaître à l'écran. Simplement pour vous dire que la réflexion est vraiment toute récente. C'est plus une amorce de réflexion qu'une véritable réflexion. Mais en la menant, je me suis rendu compte que ça pouvait mener très, très loin. Vous allez voir, j'ai comme des catégories qui sont apparues spontanément. Et donc, c'est un peu vers ces catégories-là qu'on va aller. Le point de départ, pour ceux qui ont beaucoup travaillé sur le numérique, le cyberespace, l'idée que le numérique pourrait tout à coup nous donner accès en fait à des œuvres ou à une représentation du monde presque exhaustive, on sait très bien que le numérique nous laisse l'impression que nous pouvons avoir une connaissance presque exhaustive du quotidien. Et je pense juste au projet dont on parlait Sylvain tantôt, hein, l'ensemble des shows du groupe. Donc, on a là, en fait, une représentation exhaustive de ce qui a été une période d'une vie, dans ce que c'est de la vie d'un groupe rock. Donc, une connaissance quasi exhaustive du quotidien, de la vie de tous les jours et des lieux où elle se déroule. Et nous pouvons archiver des éléments de ce quotidien, pas seulement des traces, mais des artefacts, des images, des écrits, des mementos de toutes sortes. Évidemment, si on pense à cette idée de l'exhaustivité, bien sûr, il y a là un leurre ou une illusion ou encore un mythe, mais elle s'impose d'emblée, l'exhaustivité, comme une relation de un à un, hein. Pour chaque élément du monde répond un élément de la représentation. C'est ainsi qu'on a une exhaustivité. 800 spectacles donnés par le groupe, 800 entrées dans la base de données. Normalement, l'illusion d'exhaustivité quant à elle, puisque c'est une forme un peu abattardie de la véritable exhaustivité, survient quand la quantité des éléments inclus dans la représentation s'approche de l'équivalence. Non pas tant quand elle s'approche de l'équivalence, mais plutôt quand elle dépasse les attentes des lecteurs, spectateurs, internautes. C'est l'écart qui détermine l'effet d'exhaustivité ou encore l'illusion d'exhaustivité. Maintenant, ayant beaucoup travaillé dans un premier temps sur l'idée même de la présence, les effets de présence que le web permettait, pour moi c'était clair que cette illusion d'exhaustivité participe au mythe de la présence du numérique. Et j'avais déjà écrit en 2007 cette idée que le mythe de la présence repose sur la capacité qu'aurait le numérique donc d'offrir des expériences vraies à ses usagers, une expérience vraie étant une situation où l'illusion de présence de l'objet est telle qu'elle en fait oublier qu'il ne s'agit que de simulacre. Et ce mythe repose sur l'adéquation entre la présence et une série d'effets, ceux d'immédiateté ou de transparence, de singularité et d'interactivité, et maintenant, en fait, en 2015, j'ajouterais aussi d'exhaustivité. Il y a là aussi l'idée que le médium est d'autant plus fort qu'il est capable de nous donner, en fait, une illusion d'exhaustivité. Bien sûr, il y a là un mythe vrai, parce que le numérique renouvelle, bien sûr, les dispositifs de représentation qui laissent part à de nouvelles œuvres d'une puissance inégalée, puis en même temps, c'est faux, parce qu'en même temps, on voit très bien que nous n'en sommes encore qu'à voir des projets, et les résultats sont soumis à des contraintes de toutes sortes qui en réduisent considérablement la portée. Ouais. Le numérique, à bien des égards, le cyberespace, Internet, rend présent le quotidien, on s'en rend bien compte. En fait, il donne au quotidien une présence. De fait, il nous le révèle comme il n'a jamais pu l'être auparavant. Il nous donne un accès au monde et au monde tel que nous pouvons l'expérimenter à tous les jours. Donc, ce présent nous est révélé, par contre, essentiellement sur le mode de la vision. C'est par le voir que le monde nous est représenté. Alors, pensez à tous les webcams que vous connaissez, aux caméras de surveillance, aux caméras de circulation, à ces idées de la photographie en gigapixels, je reviendrai sur la question, hein, ces bases de données immenses que sont Flickr, Instagram, et ainsi de suite. Hein, c'est un voir qui nous est donné, et c'est par ce voir que le monde nous est donné à connaître. Un truc tel que, par exemple, le Google Street View permet d'entretenir cette idée que le monde entier peut être donné à voir, hein, que tout se donne à voir et que cette vision nous fournit une connaissance sur le monde et sa réalité du moment, comme si on pouvait, par le biais d'une interface, avoir accès au quotidien, c'est-à-dire à la substance de la vie quotidienne, pour citer Lefebvre, ce vieux texte de 1958, en la substance de la vie quotidienne, l'humble et riche matière humaine. Donc là, en fait, j'ai un peu un exemple du Google Street View, où on peut se balader dans des villes du monde entier, sur des routes de campagne, et avoir accès, en fait, à ce monde, comme si nous y étions, même si, en fait, mais ça, nous n'y sommes pas. Mais là, donc, l'illusion de un à un, hein, pour chaque raison, pour chaque numéro de porte de, sur une rue, nous avons droit à une image. On est bel et bien dans une exhaustivité de la représentation. Il y a quand même une question qui est sous-jacente à ce rapport au monde et à un quotidien représenté sur le mode de la présence. Et c'est, est-il possible d'épuiser un lieu, d'avoir une vision complète et exhaustive d'un lieu? Normalement, pour moi, la réponse est d'emblée négative, on ne le pourra jamais. Mais la tentative d'épuisement, elle, s'impose dans les esthétiques contemporaines comme un principe d'une grande efficacité. Et l'idée des bases de données, bien sûr, vient alimenter cette illusion-là. Alors, dans notre monde, les tentatives d'épuisement sont innombrables et multiformes, et le numérique accentue cet imaginaire de l'exhaustivité, comme si celle-ci pouvait être enfin atteinte. C'est une façon de réduire, bien sûr. En fait, pour moi, et je pense que Sylvain et tous ceux qui participent au Radical ne sont pas surpris par ce que je vais dire là, qui est pour moi, en fait, il y a là, dans cette illusion et ce côté très rassurant de l'exhaustivité, en fait, une réponse à cette angoisse que la soif de réalité, l'impression que le monde est en train de nous échapper et que nous devons, par tous les moyens, essayer de le ressaisir et de le capter. Hein, c'est ce que Hartog et les autres historiens, sociologues, appellent le présentisme, hein, l'angoisse de notre monde, et donc le présent comme seule façon de régler ce problème. Et pour moi, l'exhaustivité vient comme, et les tentatives d'épuisement viennent comme réponse à cette angoisse, à ce besoin, à cet état d'une soif de réalité. Alors, les tentatives d'épuisement, pour moi, participent d'un paradigme singulier de l'acte créateur, c'est-à-dire, c'est l'exhaustivité qui est choisie plutôt que l'originalité, c'est l'obsession pour l'objet plutôt que la maîtrise d'un art, c'est l'épuisement des formes plutôt que la précision de l'exécution. L'un n'élimine pas l'autre, évidemment, c'est simplement les hiérarchies qui sont remplacées. L'accent est mis sur l'exhaustivité plutôt que l'originalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'originalité, on s'entend, c'est pas une dichotomie très forte. Alors, en réfléchissant à ces tentatives d'épuisement, je suis graduellement arrivé, en fait, à une espèce d'éventail des tentatives d'épuisement. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une amorce de réflexion qui est ici présentée. Alors, je me suis rendu compte qu'il y avait des tentatives d'épuisement d'un temps, d'un lieu, d'un événement, d'un principe, d'un objet, du corps, des données. Alors, je ne tenterai pas d'épuiser l'ensemble de mes catégories cet après-midi. Mais je vais quand même peut-être faire les... quand même, c'est conséquent. Je pense que si jamais je faisais une présentation sur l'ensemble de ces tentatives-là, j'en ajouterais une 9e ou une 10e ou une 11e simplement pour dire je n'y arriverai jamais, hein, parce que sinon, ça serait vraiment me battre moi-même. Alors, allons-y dans la première catégorie, tentative d'épuisement d'un temps. Et là, la première donnée avec laquelle je vais travailler, c'est celle du jour, hein, une révolution complète du soleil qui peut servir d'étalon de la mesure de ce temps. Et là, ce que je fais, en fait, c'est au lieu de vous définir qu'est-ce que serait qu'une tentative d'épuisement d'un temps, ce qui est quand même une notion assez simple à comprendre, c'est vous donner des exemples. Alors, les uns dans le numérique, les autres précédant le numérique, pour vous montrer que, oui, le numérique, bien sûr, accentue cette idée d'une tentative d'épuisement, parce qu'évidemment, le numérique permet d'imaginer l'exhaustivité et d'entretenir l'illusion d'exhaustivité, mais en même temps, ce courant-là est présent bien avant l'apparition massive, en fait, de l'ordinateur et de son univers. Alors, peut-être l'un des bons exemples, et c'est un des exemples qu'on a travaillé ensemble, Ariane Savoie et moi, c'est le projet Life in a Day de McDonald, de Ridley Scott, mais aussi de la communauté YouTube de 2011. Life in a Day, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ce projet? En fait, McDonald et en fait, toute l'équipe de Life in a Day ont demandé que le 24 juillet 2010, en fait, c'est le premier exemple de outsourcing cinématographique, donc de aller donc filmer une partie de votre journée et puis envoyez-nous votre extrait de vidéos, et nous essaierons de monter en fait un film donc, où tous les moments de la journée sont ainsi décrits. Donc, en fait, dans Life in a Day, on suit une journée entière telle que filmée, alors là, c'est là où c'est devenu extraordinaire, telle que filmée par 75 000 abonnés et ayant permis la réunion de 4 500 heures de vidéos qui ont été tournées. Évidemment, donc, comment constituer une journée à partir de ces 4500 heures de vidéos? Bien sûr, c'est en gérant une vaste base de données où, en fait, la journée a été déterminée en fonction, bien sûr, de ces moments, le lever, le déjeuner, ceci, cela. Et puis, en fonction, donc, de ce script tout simple d'une journée typique, eh bien, des paradigmes ont été ouverts. Et puis, donc, là, les vidéos ont été articulées en fonction de ce rapport entre... type d'activité, couleur, mise en scène de tel et tel type de personnage, tel lieu, et ainsi de suite. On a donc eu droit, en fait, à une espèce de tentative d'épuisement de cette journée, ce qui, par le outsourcing et cinématographique, a donné le life in a day. Ce qui m'a beaucoup étonné cette semaine, j'espère que ce film va grandement apprécier l'image qui a été choisie. Je suis vraiment peur. Il y avait déjà... Il y a un amour du pingouin ici qu'on ne s'explique pas.
Il est là.
Oui, je sais. Il est là. Bon. C'est l'image qui était sur le répertoire de NTD. Okay. C'est même pas mieux que les
il
choses.
Il joue avec nous, en plus.
Quoi?
Il joue avec nous.
Oui. Donc, en fait, il y avait déjà eu un premier projet, Un jour dans la vie, qui est de 2002 à 2012. Là, maintenant, on n'y a accès que par le biais de Internet Archive. Conçu en 2002, Un jour dans la vie offrait quotidiennement l'occasion à un... L'occasion à un internaute de raconter sa journée en déposant une photographie à heure fixe, 8h, 13h, 18h, 22h, sans inscription obligatoire pour faire partie de la communauté, ni dépôt d'informations personnelles, plus ludique et participatif que les blogs naissants. Un jour dans la vie a rencontré un succès immédiat. Un an après sa création, 550 personnes patientaient sur une liste ouverte pour avoir le plaisir de déposer les 4 clichés. Mais encore une fois, l'idée, c'est hein, un jour dans la vie, allez-y, nous pouvons avoir une tentative d'épuisement de cette idée-là, de cette journée. Parmi les autres tentatives qui ne sont plus de l'ordre du numérique, on parlait tantôt de Goldsmith, il va réapparaître là, hein, le projet de Traffic de Goldsmith, qui est livre assez, donc totalement illisible, mais c'est 24 heures, c'est la transcription écrite, des enregistrements de 24 heures de bulletins, non pas de météo, mais de bulletins de circulation. Donc, au début d'une longue fin de semaine, 24 heures de circulation. C'est comme si on écoutait, on enregistrait tout ce que Radio-Canada s'est cassé et toutes les autres radios nous donnaient comme information sur le trafic au sortir de Montréal. C'est à New York. Mais encore une fois, hein, tentative d'épuisement, en fait, par le biais de cet étalon qu'est la journée en d'une situation donnée. Goldsmith a d'ailleurs, là c'est purement pour m'amuser, parce que Goldsmith s'est d'ailleurs lancé dans le projet complètement canularesque d'imprimer la totalité, l'intégralité du web au moment d'une exposition au Mexique. Ça donnait une des photos les plus extraordinaires, c'est comme s'il y avait là la totalité du web. Nous-mêmes au MTD, on avait déjà fait comme ça, le canular, d'imprimer l'ensemble de toutes nos bases de données. Et puis des gens nous avaient écrit pour nous dire « on en veut une copie ». L'idée de la journée, évidemment, Ulysses de Joyce tourne autour de la journée. Une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn aussi. Hein, l'idée de cette journée, en fait, est tout à fait importante. Il y a, bien sûr, The Clock de Christian Marclay, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas de Clark. Donc, on l'a vu au Musée d'art contemporain, une expo qui tourne depuis maintenant 2012. Hein. On a le droit, en fait, à un film de 24 heures qui est constitué d'un found footage, un immense found footage de tous ces extraits de films où on voit un cadran, une horloge, une montre, un cadran quelconque, et on peut ainsi suivre l'ensemble de la journée, hein, minute par minute, ou même seconde par seconde, selon les plans choisis. Et le film, en fait, on doit écouter le film selon vraiment à 13h24, ou en ce moment à 16h38, ben on verrait le 16h38 à l'écran. Et on voit très bien donc l'idée là d'une exhaustivité d'un 1 à 1, là elle est réalisée. C'est-à-dire que nous sommes dans une salle de cinéma, une salle de musée pour l'instant, enfin quand c'est représenté, nous sommes dans une salle et ce que nous voyons à l'écran, c'est l'ensemble des secondes, l'ensemble des minutes de la journée que nous-mêmes vivons. Et donc nous sommes en synchronie entre une seconde du monde et une seconde de la représentation. Là, on a une exhaustivité, là, une tentative d'épuisement qui est extraordinairement bien réussie. Alors, deuxième exemple, tentative d'épuisement d'un lieu. Maintenant, l'exemple par excellence, c'est évidemment le projet de Georges Perec, donc tentative d'épuisement d'un lieu parisien. D'ailleurs, l'idée d'une tentative d'épuisement vient de Perec. Nombreuses sont les entreprises d'épuisement d'un lieu qui vont se référer à Perec. Et ça commence car il y a beaucoup de choses. Place Saint-Sulpice, le lieu, donc, c'est la place Saint-Sulpice à Paris. Une mairie, un hôtel des finances, un commissariat de police, trois cafés, dont un fait tabac, un cinéma, une église. Un grand nombre, sinon la plupart de ces choses, ont été décrites, inventoriées, photographiées, racontées ou recensées. Mon propos dans les pages qui suivent, a plutôt été de décrire le reste, ce que l'on ne note pas, ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance, ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. Donc on est là, elle est bien dans la tentative d'épuisement d'un lieu par la description de l'ensemble de ces objets. Évidemment, Philippe de Jonquière a fait une tentative d'épuisement, la tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Georges Perec sur son site web Désordre, web assez extraordinaire, qui reprend l'ensemble de tentatives d'épuisement de Perec et qui, en fait, ajoute des hyperliens. Il y a à peu près pour chaque 3 ou 8 mots, il y a un hyperlien. C'est-à-dire dès qu'il y a un objet qui est décrit, dès qu'il y a une place qui est donnée, dès qu'il y a un autocar qui est décrit, comme là, vous les voyez, tous les mots, je ne sais pas si vous les voyez très bien, là, mais tout ce qui est en caractère gras est un mot-bouton renvoyant, bien sûr, à un autre site, à une autre page. Comme l'œuvre de Jonquière date déjà d'un certain nombre d'années, les liens ont commencé à être brisés. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on pourrait voir une tentative d'épuisement des hyperliens, de tentative d'épuisement, de la tentative d'épuisement de Perec. Bon, vous voyez qu'on est dans la mise en abîme complète. Côté cinématographique, en 1989, petit film québécois de Jean Vaudry et François Bouvier, Les Matins infidèles, tournait autour de la relation entre deux amis, l'un un photographe, l'autre un écrivain, et l'écrivain avait mandaté le photographe pour, pendant un an, chaque matin, prendre la photographie d'un lieu. Donc, le lien, c'est le Bedon de Dieu, un petit resto au coin dont on ne sait pas exactement où il est. On comprend que c'est sur le plateau Mont-Royal. Et donc, tout le film tourne autour de cet épuisement pendant un an, toujours la même photographie, le même espace, bon, le même plan, le même heure. 1995, dans le film Smoke de Wayne Ryan, tiré d'un scénario de Paul Auster, on a droit aussi à exactement la même idée, donc 6 ans plus tard, un photographe, dans ce cas-ci, c'est celui qui a la tabagie, donc qui est Huggy Wren. Donc ça se passe dans une tabagie à Brooklyn, et Huggy qui tient la tabagie, depuis 9, 10, on a, je ne suis plus certain du nombre d'années, mais tous les matins, il se lève et prend une photographie de sa tabagie. Et en fait, il va même aller le montrer à un des clients qui est Paul Benjamin, la contrepartie de Paul Auster. Et puis donc, on va voir comme ça, en fait, tous les photos du coin de la rue. Donc, encore une fois, tentative d'épuisement d'un lieu. Autre tentative d'épuisement d'un lieu par la photographie, les projets de Michael Wesley fonctionnent là, sur l'étirement des temps de photographie. C'est-à-dire que par moment, ces photographies peuvent être prises sur 24 mois ou 36 mois. Donc ça, c'est les constructions sur Potsdamerplatz à Berlin. Alors, ce que vous avez de Wesley, comme vous voyez, alors, c'est assez extraordinaire. Vous rentrez le nom et puis vous allez tout de suite trouver ces photographies-là. Tout à fait fascinant. Donc, temps d'exposition, 36 mois pendant qu'on érige un édifice. Et donc, vous voyez, bien sûr, par accumulation, le lieu en train de se constituer ou de se vider ou de se transformer. J'en avais juste deux. Autre idée, les photographies en gigapixels, dans ce cas-ci de Dresde, un jour j'arrêterai, où là, en fait, bel et bien, on peut faire un zoom-in et un zoom-out dans cette photographie jusqu'à rejoindre, bon, je ne le ferai pas parce que ça prendra trop de temps, mais jusqu'à rejoindre quelqu'un à la fenêtre. Donc, l'idée dans Blow-Up, qu'à force d'agrandir une photographie, on pourrait trouver la vérité de cette photographie, bon, mais là, le gigapixel le permet. Alors, on peut se rendre jusqu'à la vérité d'un meurtre caché dans la photographie. Encore une fois, la tentative d'épuisement du pixel, la tentative d'épuisement de la photographie existent aussi. On va passer le mien, The World Hunt, on va arrêter ça. Giasson 11, un peu à la Goldsmith, tentative d'épuisement de tous les commentaires sur un film portant, sur une vidéo mise sur YouTube portant sur le 11 septembre. Il y en a fait en fait deux colonnes, totalement lisible bien sûr. Vente aux enchères. En fait, celui-là, je passais à une autre catégorie sans m'en rendre compte. En fait, je vais finir là-dessus. Tentative d'épuisement d'un événement, là, ça devient en fait une perspective mixte parce que l'événement est à la fois un temps et un lieu, hein, puisque des déterminations spatio-temporelles. Et donc là, comme ça, mais j'ai commencé à répertorier un ensemble. Là, je fais une tentative d'épuisement de mon principe, hein, d'épuiser en fait tous ces exemples de projets jouant sur cette idée de l'exhaustivité, que ce projet porte sur. Tourne autour du numérique et se sert du numérique et des bases de données, ou encore l'anticipe, ou encore propose un projet similaire. Alors, en fait, quand je vous dis que c'est une amorce de réflexion, c'est j'ai mis mes catégories et graduellement, j'ai commencé en fait à les, si vous voulez, à les combler, me rendant bien compte que ben, j'en ai aussi pour l'idée du principe, d'un objet, le livre par exemple, il y a énormément de projets autour du livre et de l'épuisement du livre. Du corps, hein, pensez à tous ces cas de scarification, les corps complètement tatoués, mais aussi tentative d'épuisement des données à la Internet Archive, où en fait là, l'ensemble des données serait emmagasinées dans un seul lieu et permettrait en fait un autre rapport, bien sûr, à cette idée de l'exhaustivité et donc de l'efficacité très grande du numérique et des ordinateurs comme outil de représentation, comme média plutôt que simplement outil de calcul. Allô, pardon. Fin de la phrase.
Merci beaucoup.